gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien.
Oh, la lumière, elle ne s'allume plus. Eh bien, bonsoir à vous, amis auditeurs, amis auditrices. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Et comme tous les dimanches, à partir de 22h, c'est l'heure de la causerie qui prend après les bandes continues parce que Dan Moonlight n'est pas là. Donc voilà, on espère que on va vous accompagner pendant cette petite heure. Enfin, cette petite heure. Vu qu'on finit souvent à la bourre, ça sera sûrement plus qu'une heure. Enfin bref, je raconte ma vie, mais ça n'a pas d'intérêt.
Oui, et mais c'est bien de t'en rendre compte.
Et oui. En fait, je me dis, la semaine dernière, on avait dit aux auditeurs, auditrices, tiens, si vous nous écoutez sur le streaming, le son est dégueu. Sauf que dimanche dernier, le streaming avait planté. Donc là.
Donc personne nous écoutait.
C'est exactement ça. Ouais. Déjà comme ça, on n'est pas sûr que quelqu'un nous écoute. Et donc là, normalement, le streaming refonctionne. Vu. Et en plus, le son est absolument parfait. Donc voilà, on espère que le plaisir sera total pour vous de l'autre côté. Eh bien, ce soir dans la causerie, dans les studios, nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Nous avons Fab.
Bonsoir. Et Jean-Yves qui fait l'ouverture en comptant sa life. Bonsoir.
Eh bien, on va vous dire tout de suite comment nous joindre, évidemment, comme toutes les semaines, mais bon. Vu que personne nous écrit, on se dit on va continuer toutes les semaines de vous le dire pour que vous compreniez bien qu'on attend vos messages avec amour et tout ça. Pour nous écrire, vous n'hésitez pas, c'est à la causerie canu, tout attaché en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Et vous pouvez évidemment écouter toutes les causeries qu'il y a eu avant, les 440 autres causeries. Sur le blog de l'émission, évidemment, c'est à blogs, au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, dans votre petit moteur de recherche, n'hésitez pas, vous tapez la causerie Radio Canu et normalement, vous tomberez sur nous. Et quoi d'autre? Et on est aussi sur un réseau socio-commercial.
Et sur les podcasts, donc tu rajoutes podcast à la causerie Canu. Et on est aussi, j'ai tous les meilleurs revendeurs de disques depuis que la compilation La causerie, les 440 premières vient de sortir. Non, c'est totalement faux, hein, tout ça en réalité. Ce n'est pas du tout vrai que nous avons fait une compilation de 440 titres. Non, tout ça est faux. 440 causeries. Mais c'était juste pour rebondir et dire qu'on était partout dans l'univers. Voilà. Et il paraît qu'on nous écoute aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Il paraît que Brigitte Macron nous écoute. je sais pas. C'est des bruits de couloir.
Voilà. C'est moi qui raconte ma life.
Non, c'était juste pour te laisser le temps de te rasseoir parce que c'est toi qui vas démarrer avec un sujet.
Mais c'était bon. Voilà.
Du capital.
Oui, ce soir, effectivement, j'ai eu envie de causer du capitalisme. Ouh, j'ai ma chaise qui grince. Donc, système économique qui régit, on va dire, la quasi-totalité de nos vies, vu que les espaces hors économie se font de plus en plus rares.
Il y a la Corée du Nord. Mais bon, voilà.
Non,
je ne peux pas te commenter
non,
plus
mais
que
aussi,
ça.
Non, il y a quand même des espaces qui sont hors capitalisme. Étant dans des espaces hors capitalisme, on a toujours affaire à lui.
Oui.
Finalement, dans une association comme une radio associative, rebelle, etc., on a toujours affaire à un moment donné au capitalisme, ne serait-ce que pour payer les capitalistes nous diffusent, qui nous fournissent l'électricité, etc., etc. Enfin bref. Donc aujourd'hui, j'avais envie de causer de ce que l'on nomme inflation. terme qu'on entend beaucoup hein, ces derniers jours et que l'on constate plus ou moins selon notre niveau de vie. Bah ouais, en fait, parce que bah, une inflation même à 20%, admettons, hein, bah, ça n'aura pas les mêmes conséquences en fait selon qu'on soit au RSA ou qu'on gagne juste le SMIC ou que l'on gagne 3000 euros par mois. Bah ouais, désolé en fait de réaffirmer ici encore une fois hein, que si tous ces cas, RSA, SMIC et 3000 euros par mois, bah, peuvent être la situation d'exploiter au contrat de subordination, bah, on n'est pas toutes et tous dans le même pétrin en fait, même en étant tous exploités. Et si vous ajoutez à cela la donnée enfant, en avoir ou pas, et ben la situation se complexifie encore un peu plus. Donc pour rappel, hein, en ce moment on parle d'une inflation en France de l'ordre de 5,8%. Allez, j'arrondis à 6 parce que de toute façon ça devrait monter. Quand en Estonie par exemple elle est déjà à 20%. Hein. Alors je vais tenter d'expliquer l'inflation, même si oui, je ne suis pas économiste. Pour autant, j'ai la naïveté de penser que ben on peut quand même comprendre, penser le capitalisme sans être économiste.
Ah oui,
non, bah, je suis complètement fou.
Alors, j'ai même tendance à penser que c'est même mieux. Bizarrement. Bah, non mais paradoxalement, c'est un petit peu. Je vais dire un truc un peu horrible, mais j'irai pas demander une exégèse de la Bible à un curé.
C'est, pas faux.
C'est très étrange d'aller demander une exégèse du capitalisme
c'est pas faux.
À un économiste.
C'est vrai. Même si, encore une fois, même dans les économistes, il y a diverses écoles. Hein.
C'était juste pour faire un parallèle.
Mais tu fais bien ton parallèle.
Ah, vas-y, donc du coup, ta définition.
Alors, ma définition hein, que je tire évidemment de la BCE, Banque Centrale Européenne. Comme on vous l'a déjà dit et comme d'autres émissions peuvent le dire, pour avoir des infos sur le capitalisme, n'hésitez pas à aller sur les sites d'information capitalistes et sur les structures capitalistes. Donc là, hein, je suis allé à la BCE qui nous donne donc cette définition pardon, de l'inflation. Je cite. Dans une économie de marché, les prix des biens et des services varient. Certains augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Quand tel est le cas, avec le temps, chaque euro permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Alors j'ajoute hein, que en fait, ça vient réduire ce que l'on aime à nommer le pouvoir d'achat.
Oui, tu hein. veux rien dire.
En gros, en fait, plus ça coûte cher, moins on peut acheter. Voilà.
Hein. Alors je voulais juste, parce que je trouve que dans la définition, il manque une chose, c'est que comment elle est calculée ? Et l'inflation, c'est calculé sur 12 mois.
Oui.
C'est-à-dire qu'on prend, on prend le mois en cours, on revient 12 mois avant, oui. et on compare, en fait, l'augmentation des prix moyens sur cette période de 12 mois.
Et voilà. Ben alors, franchement, à la limite, je vous conseille d'aller sur le site de la BCE, d'appeler inflation BCE.
Ah, mais
en fait, il y a une explication. Et en dessous, justement, il y a ces exemples, oui. en fait, de 100 baguettes, le prix en 2019, en 2020, 2021, 2021.
Alors, je dis ça parce que, justement, il y a des gens qui utilisent ces termes-là. Et qui oublient en fait que c'est sur 12 mois. Et du coup, ils disent des conneries. Par exemple, il y a des gens qui disent, on va pas citer de politique parce que c'est la campagne et qu'on va pas faire de promotion pour les uns pour les autres ou autre machin, comme on dit. Non, mais il y a des, voilà, on sait qu'il y a des débats en ce moment. Et il y a des gens qui disent, mais nous, si on arrive au pouvoir, alors quel que soit le bord politique, on fera tomber l'inflation d'un mois sur l'autre de 5%. Mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, l'inflation, elle reste calculée sur 12 mois. Donc en fait, dans tous les cas, même si vous arrivez au pouvoir, bah, vous n'allez pas effacer les 12 mois précédents.
Oui.
Donc il y a bien un moment donné où votre inflation, elle restera à un taux élevé, ce qui ne veut pas dire que ce que vous mettrez en place ne fonctionne pas.
Oui.
Ça veut juste dire qu'en
fait... Il faut prendre du temps pour le mesurer.
Bah, ça veut dire que c'est un calcul sur 12 mois,
oui.
et que vous le vouliez ou non, bah, il faudra 12 mois pour qu'on voit les effets de ce que vous faites.
C'est ça.
Voilà.
Alors évidemment, l'inflation, comme le disait d'ailleurs la BCE, en fait, existe déjà dans notre système économique et qu'on retrouve sous l'appellation aussi de l'offre et la demande, en fait, d'une certaine manière. Qui fait que, par exemple, quand un produit de consommation se fait rare, bah, son prix augmente. Quand cela concerne des bagnoles de luxe hein, ou des voyages, des vacances à l'autre bout du monde, on se dit bon, en soi c'est pas très grave parce que bon, on n'a pas tous et toutes l'ambition de posséder une voiture de luxe ni même de faire le tour du monde en fait hein. Donc en soi c'est pas des biens de consommation, on va dire primordiaux.
Oui. L'inflation
merci maîtresse Capello.
J'étais pas la seule.
Mais c'est ce qu'on appelle l'inflation ciblée. C'est-à-dire
oui.
ce que tu disais au début, c'est que là, on parle pas d'une inflation globale.
Non, c'est certains produits.
Certains biens vont augmenter.
C'est ça. Alors, faut juste que je me retrouve. Ok. En soi, bah oui, donc c'est pas primordial ce que je disais. Sauf que là, en fait, cette inflation dont on parle, là, en fait, concerne bien les biens de consommation lambda, commun plutôt, à savoir l'énergie et la bouffe, mais aussi tout ce qui peut provenir, on va dire, de Chine et ce qui est fabriqué en Chine, en fait, par exemple. Chine, dont on rappelle quand même que c'est un pays qui est toujours bloqué, en fait, hein, dû à la stratégie zéro Covid, très peu efficace, en fait, et décidée par le pouvoir totalitaire chinois. Hein, et ce qui fait que, bah, forcément, ça ralentit toute la machine capitaliste, et donc on retombe dans pas de production, toujours de la demande, voire plus de demande, bah, égale hausse des trucs. Alors, concernant l'énergie, hein, à savoir le pétrole, c'est forcément en lien avec la guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine, et aussi aux sanctions évidemment décidées par l'Europe. Alors quand on parle d'énergie, hein, on parle évidemment pétrole, sauf que le pétrole c'est pas que l'essence qu'on fout dans la bagnole. Alors ouais, si on peut et on doit s'interroger, hein, sur la bagnole, sur son utilisation, je sais aussi que selon où l'on habite, bah, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'alternative. Et vraiment, enfin je veux dire...
Ou très cher,
enfin vraiment c'est très compliqué. Moi je sais que j'habitais une région Vendée-sur-Lyon où il n'y avait pas forcément d'offres de transport en commun. Bah t'es un peu dans la merde en fait. Donc il y a des endroits, en tout cas on peut projeter en fait un effacement de la voiture, etc. Sauf que c'est une politique à long terme. Et que là, c'est pas sous le coup de l'inflation qu'on va monter des structures de transport en commun de dingue.
Ça arrive rarement.
C'est exactement ça, en fait.
Par contre, il y a des solutions qui peuvent exister à grande échelle. C'est celle que, par exemple, l'Allemagne vient de mettre en place en disant, bah, comme le coût de l'essence est extrêmement cher, pour 9 euros, vous pouvez vous balader pendant 3 mois sur tout le réseau ferré allemand. Vous payez une fois 9 euros et vous vous baladez partout. Le reste est compensé par l'État.
On est bien d'accord.
En fait, c'est des choix, en réalité, de comment on lutte contre l'inflation. Alors, effectivement, ça ne résout pas le problème là où il n'y a pas de transport. Par contre, ça diminue le problème au global. Parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, en France, aujourd'hui, 65% des gens habitent à moins de 3 km d'un réseau de transport. Alors, ça peut paraître... Voilà, mais c'est donc 35% qui sont un peu dans la merde, on va dire clairement les choses, qui n'ont pas de transport en commun direct. Par contre, ces 65%-là pourraient, avec une mesure assez simple, comme celle qui a été mise en place, on pourrait diminuer très rapidement et très facilement le rapport à la voiture.
Effectivement. Et alors, oui, forcément, hein, ça a un impact sur le prix des transports aussi mondiaux, en fait.
Bien sûr.
Parce que toutes les marchandises qui s'échangent dans le monde, ça a besoin de pétrole.
Hein. Et donc sur les porte-containers, et donc sur le prix des biens.
C'est ça. Mais aussi, par exemple, sur le plastique. Bah ouais, en fait, parce que le plastique, c'est du pétrole. Mais là, c'est pas que lié au pétrole. C'est aussi ça que je trouve intéressant de se poser un peu sur le capitalisme, etc. etc. Donc le plastoc, en fait, c'est pas que le pétrole. C'est aussi lié aux suites de la pandémie, de la diminution en fait du commerce durant cette période, parce qu'il y a quand même eu une diminution des choses, et on peut s'en réjouir, c'était bien plutôt, mais le monde d'avant, c'était pas vraiment le monde d'après, quoi. Et le monde d'après ressemble toujours encore au monde d'avant, enfin bref, vous mettrez ça dans quel ordre que vous voulez. Mais c'est aussi dû, de la baisse de la production, etc. Et en fait, des sites de production vieillissants dont certains ont galéré en fait à redémarrer en raison de leur état. Et on en revient finalement en partie à plus c'est rare, plus le prix monte. Et ce qui explique en fait que par exemple, le plastique recyclable, il a pris 39% d'augmentation fin de l'automne dernier. Et il y a d'autres plastiques, ils ont pris 70%. Hein.
Mais en fait, c'est aussi une démonstration qu'il y a du boursicotage là aussi.
Ah mais...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est des matières premières, et il y en a qui attendent, qui se disent, là, si je fais mon plastique maintenant, je vais le vendre, 3 euros la tonne, par exemple, mais si j'attends un peu, je vais le vendre 5.
C'est ça.
Donc, je vais attendre un peu, puis je vais dire que j'ai des problèmes, et puis, vous voyez, c'est un peu il y a aussi un jeu dans tout ça, il y a aussi une part de trucs vieillissants, ça c'est une réalité, mais il y a aussi, on le sait, chez certains grands groupes, en ce moment, un petit jeu de « je peux pas redémarrer, je suis pas prêt », parce qu'en fait, ils attendent le moment où c'est le
plus... Il faut créer la rareté pour...
Oui, c'est ça aussi.
Et on peut, hein, alors, par rapport au plastique, et on peut, et on doit aussi, par exemple, ici, se poser la question, comme le font certains et certains depuis des années, du pourquoi, en fait, consommer de l'eau en bouteille plutôt que celle du robinet, par exemple. C'est un peu idiot basique comme question, mais je pense que c'est vraiment, ça vaut le coup quand même de se la poser, quoi. Mais aussi, on peut se poser la question, et en tout cas faire le constat de la présence du plastique et donc du pétrole dans quasi tous les aspects de nos vies, en fait. Plastique qui ensuite formera le continent plastique dans la mer. Bon, de là à croire que le capitalisme est plus nuisible que bénéfique. Et pour la bouffe, là encore, c'est un impact de la guerre en Ukraine, vu que la Russie et l'Ukraine sont des géants de la production et de l'exportation de diverses céréales et oléagineux. Parce que ouais, en fait, il n'y a pas que le blé touché, hein, on peut aussi citer le maïs, le colza, le tournesol, etc. etc. Et donc, quand on parle céréales et oléagineux, je vais y arriver, je pense que vous comprenez que tout cela... Euh, tout ce que, que ce que tout cela englobe comme production. Il y a la bouffe, évidemment, comme le pain, etc., hein, c'est sûr. Il y a aussi l'huile, les huiles.
Les biocarburants,
par exemple. Il y a aussi la bouffe animale. Et là, je ne parle même pas qu'à l'échelle française, ni même européenne.
Non, c'est mondial.
On peut prendre l'exemple de l'Égypte. Je crois que l'Égypte, c'est plusieurs dizaines de pourcents d'importation.
50%
au moins. J'aurais pensé
alors,
plus, mais.
C'est 50% d'importation qui venait d'Ukraine.
Ouais, c'est
et
ça.
Et 20% qui viennent de la Russie.
C'est ça.
Donc c'est 70%.
Oui, c'est 70%, c'est ça.
En fait, qui viennent de ces deux pays-là. Donc
c'est
quand
ça.
Les deux pays sont en guerre, et ben, pour l'Égypte, il y a un gros problème.
Beaucoup de monde dans la merde, ouais. En fait. Et on peut et on doit, ici, par exemple, encore, se poser la question, comme le font certaines depuis des années, du pourquoi on consomme autant de viande, par exemple. Parce qu'on sait qu'il y a une grosse partie de ces céréales qui est faite pour aller nourrir du bétail. Qu'ensuite on va bouffer.
Alors même si, c'est un paradoxe, mais ça va devenir peut-être plus rentable de manger de la viande que de manger de la céréale directe. Non mais je dis ça, c'est une provoque volontaire de ma part. Non, je dis ça, c'est juste pour dire qu'il faut se méfier en ce moment de la petite musique qui est en train de se remettre en place sur les farines animales. Où on a des gens qui disent « Ah, bah comme on n'a plus de...
Oui. »
Voilà, on devrait les nourrir aux farines animales. Alors voilà, il va falloir être très vigilant, parce que ces périodes-là, c'est aussi un moment où reviennent tous ceux qui ont envie de recaser toute leur
mère. Ah ben oui, le capitalisme, voilà. C'est toujours une...
Et c'est pour ça que je faisais de la provoque en disant « Ça va être plus rentable. » Vous voyez,
c'est un petit peu... Le capitalisme, c'est de l'opportunisme. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, mais si la guerre autour des céréales, etc., a joué un rôle, il y a aussi une autre donnée, c'est la donnée climatique. Parce qu'on le sait, il y a des quantités qui sont moindres dans les récoltes et qui sont projetées à devenir moindres aussi. Et puis là, par exemple, on peut prendre l'année 2022 dans la production. Il y a de grandes chances que Russie et Ukraine, ou en tout cas Ukraine, la production n'est pas certain qu'elle donne autant que les autres années, par exemple.
D'autant plus que Poutine vient de faire bombarder des réserves de blé.
Et oui.
Quand on fait bombarder des réserves de blé, c'est qu'on vise une famine mondiale quand même.
Oui. Et qu'on a envie de faire monter le prix.
Mais, bah oui, mais ça revient à ça, je veux dire.
C'est voilà. Ça. Et donc forcément, qui dit bouleversement climatique, etc., ça joue aussi évidemment sur la baisse, sur la production, souvent à la baisse, forcément. Et en effet, sur les secteurs nommés, je te rejoins sur ce que tu disais avant, il ne faut pas non plus oublier les spéculateurs. Bah ouais, parce que dans le capitalisme, tout est matière à boursicotage, et même les biens primaires, on va les appeler comme ça, en tout cas nécessaires à l'humanité, tels que pour la bouffe, etc., ils sont pas exclus du jeu capitalistique.
Un exemple, c'est le blé.
Oui.
Parce que justement, le blé d'aujourd'hui, là, avec lequel on fait le pain aujourd'hui, c'est le blé de l'année dernière.
C'est ça.
C'est pas le blé de cette année.
Non, c'est ça.
C'est du blé qui est déjà stocké en Europe, ouais. Qui a déjà été exporté d'Ukraine ou de Russie. Parce que oui, effectivement, c'est les deux plus gros producteurs de la zone eurasienne, c'est la Russie et l'Europe. La Russie et l'Ukraine. Donc, en fait, les réserves, elles existent. Sauf que là, on spécule déjà sur le fait qu'il n'y aura rien l'année prochaine. Donc, c'est clairement purement de la spéculation. La montée du prix aujourd'hui du blé, elle est fictive. Elle n'est pas basée sur une pénurie, parce qu'on ne manque pas de blé.
Non.
On a du blé physiquement. Oui. Elle est basée sur ce qu'estiment les gens qui projettent sur l'année 2022-2023.
C'est ça. Mais là encore, de là à croire que le capitalisme est plus nuisible que bénéfique. Et donc... Face à ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Alors, pouvoir politique, français en tout cas, il a bloqué les prix sur certaines choses, il fait des chèques aussi aux plus pauvres et précaires, mais est-ce que ça suffira? On peut se le poser comme question. Et il y a
la réponse est non.
Il y a une chose qu'on entend un peu ces derniers temps, même dans la bouche d'un libéral, comme le maire, le sinistre de l'économie, ce serait, tenez-vous bien, la hausse des salaires. Un truc de dingue, quoi. Et parce que si la populace, elle a pas assez de thunes, faut augmenter la part donnée aux exploités, aux producteurs et aux productrices de richesses, à savoir les salariés, oui, c'est ça, faut pas l'oublier. Ceux qui font les richesses, ce ne sont pas les patrons, ce sont ceux et celles qui font les produits. Ne l'oublions jamais. Et évidemment, ça n'a pas pu laisser de marbre un certain patron du MEDEF. Et il a déclaré...
Oh, Geoffrey, il va bien?
Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas s'il va bien. Moi,
Geoffrey Roux de Bézieux.
Je ne fais que le lire. Moi, je n'ai pas de lien comme toi. Il n'y a pas Brigitte Macron qui m'écoute, non, ni de Bézieux. Je ne sais pas.
Je n'ai aucun lien avec Geoffrey.
Ah non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui t'avances dans des trucs comme ça.
Oh, un peu d'humour, en tout cas.
Alors, il a dit, le monsieur, il a dit, moi, j'ai pas un... Ah, je vais essayer de la faire sérieux, parce que sinon, je vais dénigrer...
Non, parce que quand il parle, il a l'air con, donc tu peux le... Pardon. C'est vraiment... Alors, Geoffrey Roux de Bézieux, c'est vraiment le libéral typique.
Oui,
qui a une espèce de phrasé. On se demande s'il se fout pas de notre gueule tous les trois mots, mais voilà.
Vous direz ça après. Moi, je n'ai pas un bouton rouge ou un bouton vert pour dire j'appuie sur les salaires. Selon lui, hein, près de trois quarts des entreprises ont déjà augmenté les salaires. Alors, amis auditeurs, auditrices, hein,
vous demandez à votre patron.
Ouais, regardez sur vos fiches de salaire, est-ce que vous avez été augmenté. Hein. Et donc, le cher Geoffroy de Bézieux, là, je ne sais pas comment il s'appelle.
Geoffrey,
qui ajoute, il y a des entreprises qui vont distribuer des primes supplémentaires, d'autres qui vont refaire des négociations d'ici la fin de l'année, sans attendre janvier 2023 pour négocier. Mais comme dit Bruno Le Maire, c'est celles qui le peuvent. Ok. Bah ouais. Comprenez quand même, ce pauvre bougre, hein, moi j'ai envie de dire, lui qui vient toujours hein, porter la voix du patronat quand il s'agit de baisser les cotisations sociales, quand il s'agit donc d'empirer la situation des exploités. Et
surtout des plus pauvres.
Ah bah oui, oui.
D'autant plus, c'est-à-dire quand on tape sur les cotisations sociales, c'est avant tout les plus pauvres qui morflent.
Et arrive donc hein, à parler pour le patronat, hein. En gros il arrive à entendre la voix du patronat quand c'est pour augmenter leurs bénéfices. Mais par contre, c'est une voie de transmission à sens unique. Et ça, vraiment, je me dis, en 2022, n'avoir une voie de communication qu'à sens unique, c'est triste quand même. Vous trouvez pas?
Ouais.
Moi, je trouve.
Mais surtout, en plus...
Peut-être qu'on se cotise, qu'on lui achète une ligne...
Un téléphone.
Un téléphone, quoi. Moi, j'ai de la peine pour lui.
En plus, c'est marrant parce que c'est le même gars qui déclarait, il y a pas très longtemps, que les syndicats, et en particulier la CGT-FO, avaient un bouton pour faire des grèves à répétition quand elle le souhaitait, mais lui il a pas de bouton.
Non,
en fait c'est ça. C'est pour ça que je dis, on a vraiment l'impression qu'il se fout de notre gueule, mais il se fout clairement de notre gueule. Hein,
en tout cas, il déblatère son propos.
Il y a un mépris hallucinant derrière. Et honnêtement, on peut le dire, on peut le rappeler quand même, la France est le pays où les multinationales ont le plus versé de dividendes au monde. C'est pas en Europe, c'est au monde.
Oh là, calme-toi. je vais y viendre.
D'accord, je me calme.
Alors, je vais donc effectivement rappeler ici hein, que les bénéfices des capitalistes se portent très bien. Alors évidemment, hein, on va toujours dire « Oui, mais il y a certains secteurs qui se sont cassés la gueule. » Oui, certains secteurs se sont cassés la gueule. Mais il y en a d'autres pour qui ça se passe très bien, voire même ça s'est amélioré grandement. Alors pour rappel, hein, comme annoncé dans un article de France Info, je cite des chiffres qui donnent le vertige. Quelques 1470 milliards de dollars de dividendes ont été versés par les entreprises mondiales à leurs actionnaires en 2021. Des chiffres inédits, dopés par le rebond de l'économie mondiale et les bénéfices exceptionnels des entreprises minières, selon le rapport du gestionnaire d'actifs Janus Andersen, paru mardi 1er mars. Les dividendes ont augmenté de 16,7% par rapport à 2020, année de Covid.
Comme nos salaires, évidemment.
Oui, évidemment. Et de 3,2% par rapport au précédent record, déjà, hein, datant de 2019. Et ces chiffres pourraient être à nouveau battus en 2022. J'arrête là de citer hein, France Info. Alors, on le voit bien, hein, si inflation il y a, avec diverses explications et toujours dans le cadre du capitalisme, hein, ne l'oublions pas, qui a comme principe l'exploitation du plus grand nombre et les bénéfices pour le plus petit nombre, il ne faudrait quand même pas oublier que certains et certaines en sont à devoir réduire leur caddie de course et dans le pire des cas à crever de faim, parce que c'est clairement ce qui nous guette quand même dans certains pays du monde. D'autres, en fait, pendant ce temps-là, engendrent de la thune à plus savoir qu'en faire. Et 1470 milliards.
Tu fais une crasu qui là.
Ouais.
1470 milliards.
Je ne parle là que des dividendes versés aux actionnaires, ce qui ne représente
pas la richesse des entreprises.
Ce qui ne représente pas le bénéfice total de toutes les entreprises. Alors je vais vous le dire vraiment, moi j'ai tenté de chercher le bénéfice mondial. Ben, j'arrive pas à le trouver. J'ai trouvé les dividendes effectivement mondiaux.
C'est très compliqué à trouver parce que toutes les entreprises ne versent pas le même taux aux actionnaires.
Oui, évidemment.
Évidemment. Et puis souvent on ne fait pas trop ce calcul parce qu'on aurait peur.
Mais c'est tout le truc.
C'est le genre de calcul qu'on veut pas faire.
Donc de là à croire hein, que le capitalisme est plus nuisible que bénéfique, je vous laisse réfléchir à ça. D'ailleurs, hein, quand un gouvernement libéral comme celui de Boris Johnson au Royaume-Uni, en est à taxer les profits des géants de l'énergie pour financer des nouvelles mesures face à la hausse des coûts de la vie, c'est qu'il doit y avoir, je pense, hein, une possibilité de changer la donne. Bon, par contre, hein, je vous rassure, ou pas, en tout cas, je vous rappelle que Johnson appelle cette taxe exceptionnelle.
Oui, puis on passe de 0 à 1% ou 2%.
Donc il ne sera... Non, un peu plus.
Ah oui, c'est vrai, oui, il a annoncé que ce serait plus que ça, finalement.
Alors là, je voudrais dire 15, mais je ne suis pas persuadé.
Je crois que tu as raison. C'était qu'au départ, il pensait que ce serait 1 ou 2 suffirait, mais en fait, non.
Et donc, qui dit exceptionnel comprend donc bien qu'effectivement,
ça
ne sera pas perpétué dans le temps. Il ne faudra quand même pas taxer trop les bourgeois. Quand même, les pauvres, il leur resterait plus grand-chose. Hein. Vous imaginez bien que c'est difficile pour eux. Donc, tout cela... Hein,
Toi, tu n'y penses pas, mais regarde. 15% de 1470 milliards. Ça fait des sous.
Ouais, c'est terrible.
Et quand tu dois changer la Lamborghini et que ta septième maison a un besoin qu'on refasse le toit sur 475 mètres carrés.
Moi, je m'en rends pas
toi,
compte.
Tu réfléchis pas à tout
non,
ça.
Non, c'est... Salaud de pauvre. Alors, tout cela démontre bien, selon moi, je ne parle qu'en mon nom, qu'il s'agit bien là encore d'une question de répartition des richesses.
Hein. Ah, hein,
comme on l'a dit souvent ici, la pauvreté, la misère sont sagement entretenues.
Comme l'inflation, d'ailleurs.
C'est ça. Malheureusement, les populations, du moins une partie d'entre elles, en fait, sont assez fatalistes et oublient souvent que tout cela n'est pas le fruit du hasard ni la volonté des pauvres d'être pauvres. Hein, parce que, je sais pas, on grandit pas en se disant « Tiens, moi, j'ai envie d'être miséreux toute ma vie. » Tu vois, c'est un but de vie. Bah non, en fait, ça n'existe pas.
Il y a plein de rappeurs, de chanteurs qui chantent la pauvreté, que c'est génial, non ?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
ah
ça.
Ouais, non, pardon.
Et que, en fait, et que donc, bah, on peut, j'ai envie de dire même, agir et réclamer notre dû pour ne pas subir l'inflation, en fait, plus qu'il ne faut. Alors là, encore une fois, je précise, hein, tout ce que je dis là, c'est même pas très révolutionnaire. Hein. Continue de rester dans un cadre capitaliste. Hein.
Ouais, donc, c'est l'idée, en théorie, si par exemple on avait vraiment envie de maintenir ce fameux pouvoir d'achat là, qui est dans la bouche de tous les politiques et syndicalistes, ça m'énerve parce que ça veut strictement rien dire, mais si on avait vraiment envie de maintenir ça, il faudrait que les salaires augmentent à minima de l'inflation.
C'est ça.
Les salaires et les revenus en général.
Parce que, justement, n'oublions pas que les taxes exceptionnelles, les primes et autres chèques ne sont que des sparadraps, en fait, et ne viennent ponctionner que ponctuellement les bénéfices. Ce qu'il faut, c'est effectivement, et je te rejoins, hein, c'est augmenter les salaires, et pas que de 2 ou 3%, je veux dire, c'est juste ridicule.
À hauteur d'inflation minimum.
C'est ça. Et augmenter les salaires ne veut pas dire baisser les cotisations sociales. Parce qu'en fait, souvent les libéraux vont vous dire « Oui, oui, on va vous augmenter vos salaires en baissant les cotisations sociales. » Mais baisser les cotisations sociales, c'est tuer au fur et à mesure la sécurité sociale, la gratuité des soins, ou en tout cas en partie la gratuité des soins,
les retraites.
L'éducation, les retraites, etc., etc. en fait. Donc non, en fait, c'est pas une baisse des cotisations sociales qu'il faut, c'est ponctionner plus sur les bénéfices qui sont faits, point, à la ligne. Il n'y a même pas à discuter 15 000 ans avec ça, en fait. Alors oui, je suis dans l'idéologie. Je m'en excuse, mais je ne pense pas l'être plus, ni moins en fait, que lorsque les pouvoirs politiques hein, nous disent qu'on ne peut que, au mieux, réformer le capitalisme, hein, ou encore quand ils présentent l'impôt comme le mal absolu. Est-ce que vous avez jamais remarqué ? Ils parlent toujours de l'impôt, parce que je veux dire, Macron et toute sa clique, et d'autres avant aussi, hein, si on ne peut pas augmenter les impôts, les gens... Mais en fait, quand on parle des impôts, de qui en fait ?
Surtout, ça dépend de ce qu'on fait des impôts.
Mais bien évidemment, en fait, c'est tout le truc, quoi. Donc... Pardon, je me perds. D'ailleurs, ouais, après je m'arrête. Hein. Si la prochaine destruction de notre régime de retraite est prévue, c'est juste pour ne pas taxer les profits du patronat. En fait, c'est à un moment donné, vous écoutez une des dernières déclarations qui a été faite, je crois, par le maire ou Macron, etc. C'est ils disent, il faut qu'on fasse cette réforme, sinon il faut qu'on augmente les impôts.
Ah, il a bien dit cotisation dans la phrase. Il a même dit il faut qu'on augmente les cotisations. En fait, il s'est un peu trahi. C'est-à-dire que c'est pas un impôt la cotisation. On va se rappeler de ça. La cotisation c'est un pot commun. C'est-à-dire c'est on prend, on met dans un pot commun, on rend. Et en fait, il s'est trahi en disant cette phrase. Et je crois que c'est le maire qui l'a dit parce qu'en fait très clairement il a indiqué que sa politique c'était d'aller vers le privé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut, c'est détruire le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, et on fera une émission dessus, je pense, ou toi ou moi, on fera un truc là-dessus, mais c'est exploser le système de retraite tel qu'il existe, non pas pour que vous ayez moins à la retraite, c'est pas leur idée, parce que même si ça va aboutir à ça, mais pour que pour ceux qui ont les moyens, vous alliez prendre des trucs privés à côté, qui sont eux annexés à la bourse.
Ah bah oui.
Ce qui en fait fait rentrer de la fraîche, de l'argent. Et quand vous faites rentrer de l'argent, mathématiquement et statistiquement, vous faites baisser l'inflation. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, comme ça, ça fait d'une pierre deux coups.
C'est ça. Alors bon, je m'arrête bientôt. Hein. Je vous promets, je m'arrête bientôt.
Ça fait deux fois que tu le dis.
Ouais, ouais, mais quand même là,
c'est un vrai politicien, des promesses, toujours des promesses.
Non, non, là, je le vois sur ma fiche, j'arrive au bout. Alors, quand on vous dit que vous pouvez bien sacrifier des années de votre vie, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous en foutez de votre vie, en fait? Qu'est-ce que vous en foutez aussi de votre santé, finalement, hein? Et qu'on, pour ne pas toucher aux bourses des plus riches, demandez-vous vraiment si moi, je suis le seul à être dans l'idéologie politique. Si, par exemple, La Causerie ou même d'autres émissions sur Radio Canu, on est les seuls à être dans l'idéologie politique. La seule différence, à mon avis, c'est qu'ici, on assume pleinement d'avoir des idées politiques et des positionnements politiques. Et on joue pas au grand sauveur de tout le monde, etc. Non, on a des positions politiques, mais croire que Macron et d'autres n'ont pas de positionnement politique et de position politique et d'idéologie, c'est se mentir. Bref, bientôt la fin. Cessons d'attendre que les pouvoirs politiques veuillent bien nous donner quelques miettes, de manière exceptionnelle. Faudrait quand même pas déconner. Et réfléchissons nous-mêmes, en fait, à ce qui pourrait améliorer notre vie et la vie, en fait, du plus grand nombre dans ce pays, mais en fait aussi sur cette foutue planète, en fait, parce que vous avez remarqué, en fait, genre, quand il y a une crise, elle est mondiale. Quand il y a des problèmes de climat, c'est mondial. Donc, en fait, peut-être qu'un jour, on va arriver à grandir, nous aussi, dans nos positions et se dire, bah tiens, en fait, on a un globe et on est une humanité, en fait, avec des spécificités régionales, locales, culturelles, tout ce que vous voulez, mais on est tous pareils, en fait. Hein. Bref, si dans l'immédiateté, il faut prendre notre dû, évidemment augmenter ses salaires, et ben à long terme, en fait, quand on constate que le capitalisme est plus nuisible que bénéfique, il me semble aussi plus qu'urgent d'imaginer le dépassement justement de ce foutu capitalisme et d'aller, vers une société autogestionnaire, de solidarité, d'entraide, loin en fait de la guerre économique de toutes et tous contre tout le monde, au bénéfice de quelques-uns et quelques-unes, en fait. Parce que je me dis, par exemple, dans une société autogestionnaire de solidarité et d'entraide, ben en fait, personne ne devrait crever de faim, en fait. Parce que justement...
Par définition.
C'est ça, parce qu'on sait qu'il y aurait assez pour tout le monde, et que donc, on partagerait de manière à ce que tout le monde ait, pour que personne ne crève de faim, en fait. Il n'y aurait personne qui serait là pour spéculer sur la bouffe, pour spéculer sur absolument tous les pans de nos vies. Donc, ouais, en fait, je pense qu'encore une fois, le capitalisme est peut-être plus nuisible que bénéfique. Enfin bon, je vous laisse là-dessus, et je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais encore une fois, enfin, je pense que c'est toujours quand même intéressant et important aussi. Pardon, que pourrais-tu rire ?
Non, t'as changé ta fin.
Ah non, c'est parce qu'on m'a dit, oh, arrête, on dirait un jeune ado énervé.
Mais justement, fais-le, ça fait du bien.
Vive l'anarchie ! Et donc... Non, et que non, enfin, et pour être plus sérieux aussi, même si vive l'anarchie, c'est très sérieux aussi, je suis désolé, mais non, c'est enfin vraiment, je pense que c'est hyper important, en fait, de repenser, enfin, de penser, de questionner le capitalisme, en fait, et de pas juste être dans contre le Bouygues et son monde, contre truc et son monde. Non, en fait, oui, ok, on veut les rejeter, mais en fait, il faut les comprendre pour pouvoir déjà les expliquer et les démonter, en fait.
Oui, mais c'est ça, c'est qu'il faut toujours se rappeler que le capitalisme est un outil.
Oui.
Alors, c'est un outil qui est dans la main, effectivement, de quelques personnes qui l'utilisent pour asservir plein de millions
sinon,
de personnes.
Sinon, il n'aurait pas son sens.
Mais c'est un outil, et comme tout outil, c'est un système, un outil, et donc, comme toute chose comme ça, c'est construit par l'humain.
C'est ça.
Et donc, c'est pas immanent, ça sort pas de la cuisse de Jupiter, c'est pas Dieu ou quoi, je sais pas quoi. C'est quelque chose qu'on peut modifier, transformer, détruire, changer et remplacer.
C'est exactement ça.
Et c'est simplement ça, en fait. Et il faut sortir de cette espèce de truc qui laisse penser, et trop souvent, j'entends des gens dire, ben oui, mais on pourrait pas faire autrement. Alors, j'ai juste rappelé que le capitalisme tel qu'on le connaît, là, aujourd'hui, il a à peine 200 ans. Mm-hmm. À peine, je dis
bien. Et l'humanité a
300 000 ans à peu près. Qu'avant le capitalisme, il y avait d'autres systèmes qui étaient aussi des systèmes d'exploitation qui étaient dégueulasses et tout, mais qui existaient. Il y a aussi eu des moments où il y avait des systèmes d'entraide et des systèmes de, on va dire, de répartition plus juste. Et voilà, on le sait aussi. Donc en fait, d'autres systèmes existent, d'autres façons de vivre existent. C'est pas un souci. Le problème, c'est à un moment donné d'accepter l'idée que on peut les mettre en place. Mmh. C'est ça en fait le truc.
C'est ça.
Et déjà, sortir de ce on ne peut pas faire autrement, le capitalisme, c'est indépassable.
Oui, c'est ça, c'est pas la fin de route, en fait.
Non, ça n'est qu'un outil parmi tant d'autres.
Ça peut nous emmener dans un mur, mais c'est pas la fin de l'histoire, quoi. Non, en fait, de loin pas. Enfin bref, et comme le disait, je crois, un économiste, justement, le capitalisme n'existe que parce qu'on y croit.
Non, ça, c'est l'argent.
Ah, c'est l'argent, ouais, pardon.
C'est l'argent,
c'était Keynes.
Ouais, c'est Keynes.
Je crois que c'est Keynes qui disait
ça. La croyance de l'argent. Ouais.
C'est ça. Et tu dis quand même, un économiste dit.
Ben, un jour, on fera peut-être un sujet sur l'argent, effectivement, pour comprendre que oui, l'argent n'existe que parce qu'on croit que ça vaut quelque
chose.
Ah,
ben oui, c'est ça, en fait. Enfin, bref.
Croyance collective.
C'est ça. Amen. Clara, lève pas les yeux. Elle dit rien, Clara, mais je vous jure qu'elle est hyper expressive, en fait.
Et là, surtout, elle regarde l'horloge, elle dit hey, on va.
Allez, on passe à la musique.
Les yeux baissés, je reste sur le carreau. J'ai beau laisser, je suis derrière les barreaux. Ma vie n'est pas un bon plan sans accro. De côté brûle l'existence, une garrot. Ne lis pas l'avenir dans un jeu de tarot. Je prends des risques et connais les tarots. Prends garde à toi, une équipe de tarés. Mange la pas, ouais, le piège est carré. La boucle est lourde, pas pour te faire marrer. Le dégoût monte et descend comme la mer s'est marrée. On me coupe les pattes, peur de se faire élaguer. Trop me casse la tête qui veut me trépaner.
Je veux plus jamais me lever dans ce siècle bizarre. Je veux pas m'humaniser, sauf peut-être par hasard. Moi je fais comme je peux, je me frotte les yeux. Totalement désastreux, salement infantile. Veillance à outrance, c'est de la désespérance. Ce mot s'attirant, je préfère la nonchalance. J'ai pas fini de cracher sur mes inconsistances. Pas fini de parader, de partir en déviance. Soit tu pars en vacances. Moi je pense la violence et la merde qu'on encense. Et la condescendance.
Toi tu pars en vacances. Moi je pense la violence et la merde qu'on encense. Et la condescendance. Remplis mon pédiluve, ton aigreur s'amplifie. La vague se déconstruit, tsunami de fourmis. Enfermé dans la ferme, séquestrer ses amis. Pour un joyeux Noël en bien belle compagnie. Des cigognes et des loups, j'en ai plus rien à foutre. J'ai choisi ma famille, 30 millions d'amis. Je suis parti en partie, reparti. Lico, la douleur à mon dos, je fais des dégâts des os. Les dépouler dans ton ras, en râlant, en rasant la moquette pour carottes et croquettes. T'as pâté ton papa avec pâté pâteux et des poutous poutous pour tout tout bien baveux. Un bâtard de clébard, une litière dans ton bar. À la lisière, une bière sur le bord du comptoir. Dépouiller ta compta, relevons les compteurs. Assumons nos erreurs pour un dernier quart d'heure.
On sert dans des caves, on marche pas au chantage. Des épaves qu'on gave, on est même pas grave. On fait rien au chômage et à peine sauvage. Et la boue chronophage dans laquelle on le sol dérapé, pourtant pas besoin de cage. On a beau ne pas être sobre ici, tout se tient sage. On roulait la commune dans nos livres d'histoire. Malgré toutes nos lacunes, on perd pas la mémoire. Jamais on va voter, nous on préfère flâner. Autorité désertée, dès la fin de l'été.
Jamais on va voter, nous on préfère flâner. Autorité désertée, dès la fin de l'été. J'adore le crime que j'allais commettre. Ce soir c'est centaines, c'est la comète. Frauder le bus, le tarif honnête. QDLs où je n'allais pas l'omettre. Le flow est simple, travaille les fossettes. Le texte est humble, peut-être trop bête. L'instru chimique, pas de trompette. Frérot tu rap encore pour la compète. Le miroir juste pour la gonflette. Tous les soirs je finis pompette. Tu cherches la gloire, cherche les conquêtes. Chez nous la victoire est presque complète. Quel est le but et quelle est la quête? Quand est la chute, quand est la fête? Dans l'ego trip, faut que j'arrête. Pas de bling bling, non je suis un asset. Bordel, il faut que je m'y mette. Ça ne vole pas haut, l'oiseau qui s'y prête. Je tombe très bas, la dernière lichette avec Lisa Muda. La dernière vignette de l'album Panini. L'album Panini. Ils font des nananinanères. Bla 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 bla. Des Microsoft dans leur tanière. Du vieux Tamien dans leur crinière. Des faux snikers dans leur cimetière. Des demi-dieux sur leur terre-terre. Nananananananananamère.
Et vous êtes toujours à l'écoute de la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter...
Le rap.
Le rap. Ouais, putain, punaise. Petite pensée à Muda, Buffa, etc., à Calécho, à Longrois, parce qu'il y a certains éléments de cet ancien groupe qui est là-dedans. Et donc là, on vient de s'écouter le titre Panini de Bidon Bizarre avec Le Crabe et en featuring avec Tové. Voilà. Et bien, de...
c'est bien.
Ah, moi j'adore. Alors je vous conseille vraiment d'écouter l'album.
Ouais.
Je sais plus comment il s'appelle l'album, mais en tout cas c'est en téléchargement libre, etc. sur Bandcamp et autres. Et donc c'est Fab qui prend la suite et on va parler de Covid et monde d'après.
Oui, bah oui, plus de deux ans déjà, que nous vivons la pandémie de Covid-19 dans le monde. Donc elle a déjà fait entre 13 et 24 millions de morts, hein, quand même, directes ou indirectes. Voilà.
À peine plus qu'une petite grippette, quoi.
Non, c'est beaucoup plus qu'une grippette, là, franchement.
Non, mais je faisais juste de l'humour.
Et le problème, c'est que c'est pas terminé. C'est surtout ça, le truc, hein. Faudrait arrêter de croire que le Covid, c'est fini. C'est pas fini. Alors oui, parce que la pandémie n'est clairement pas terminée et que les chiffres sont clairement sous-estimés, en fait, partout dans le monde ou presque, hein. Et chaque fois que, en réalité, l'OMS ou des instituts indépendants se penchent sur le nombre de morts de Covid, on se rend compte qu'en fait, soit ils ont été sous-estimés, soit on n'a pas pris en compte ce qui était ce qu'on appelle les morts indirectes, c'est-à-dire les gens qui étaient morts parce que saturation des systèmes de santé et que donc du coup ça a augmenté le nombre de décès ou des choses comme ça. Et en fait, bah, quand on met les choses bout à bout, on est beaucoup plus haut que les 7 millions annoncés il y a quelques mois, je crois, de mémoire, par un... je crois que c'est l'OMS qui avait donné ce chiffre-là, okay, qui était en fait le chiffre additionné des remontées officielles des États.
Ouais.
Et en fait, voilà.
Et dans tout le lot, alors là, c'est les morts, mais effectivement, il ne faut pas oublier non plus les Covid longs.
Oui, tout à fait.
Là, il y a plus en plus de sorties d'études au
Covid long. C'est à peu près 10% des gens qui ont eu le Covid font un Covid long. Alors, le Covid long, c'est plus ou moins long, ça va de 3 mois à plusieurs années, et c'est des choses récurrentes qui restent.
Oui, voilà, c'était juste...
Mais c'est important, hein. Et aujourd'hui, par exemple, en France, sur le début de l'année 2022, c'est-à-dire donc entre maintenant et janvier, entre janvier et maintenant, plutôt dans l'autre sens, c'est mieux, il y a à peu près 23 000 personnes qui sont décédées directement, je dis bien directement, du Covid, et on estime 34 000 à 35 000 personnes indirectement.
En France.
Donc 23 000 plus 12 000, hein, le 35 000, ça fait donc, si on ajoute les indirects, c'est en France, voilà. Et on compte, si ça continue aujourd'hui au rythme de 9 personnes par jour en moyenne qui décèdent du Covid à l'hôpital ou chez elles. Mais en fait, nous sommes sur un seuil dit acceptable psychologiquement, c'est-à-dire que bah, quand une maladie tue 10 personnes par jour, on n'y fait plus vraiment attention. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Je dis que c'est comme ça. Bien entendu, les outils hein, comme les vaccins et les habitudes prises, hein, que ce soit le masque, le lavage des mains, l'aération des lieux, le fait aussi que ce soit l'été, enfin des choses comme ça, et le fait aussi qu'on ait appris à vivre avec le virus, parce qu'on apprend à vivre à un moment donné avec un virus. C'est-à-dire quand on sait par exemple que bah, le virus se transmet quand on tousse sur quelqu'un, bah, quand on a envie de tousser, on a tendance à plus tourner la tête ou plus le mettre dans son coude que qu'on le faisait avant. Et ça peut paraître bête, mais ça suffit parfois à éviter une contamination. On se sent moins pressurisé aujourd'hui qu'hier par rapport à ce Covid. Mais nous n'en sommes pas pour autant à la banalisation, c'est-à-dire au fait que le Covid serait une maladie comme les autres ou qu'il ne serait pas capable de revenir. Voilà. Et donc le Covid et ses conséquences, ça perdure et c'est pas encore la sortie espérée qu'on avait de cette épidémie. Alors souvenez-vous au début de la pandémie, hein, pandémie je vous rappelle la différence, épidémie c'est local, pandémie c'est mondial, 65% de la population mondiale a été soumise à des mesures de confinement, de restrictions, et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui il y a des études qui ont été faites, ça a été un vrai frein à la propagation de cette maladie. Donc beaucoup parlaient, hein, y compris des dirigeants, hein, quand c'était ce moment-là, d'un monde avant et après le Covid. Hein, on se rappelle des associations écologistes qui nous affirmaient que cela nous sauterait aux yeux, que moins d'activité humaine, c'est mieux, par exemple. Hein, et qu'il était souvent affirmé que des élans de générosité qui s'étaient mis en place pendant la période dure du COVID, de déconfinement et du Covid seraient maintenus après, changeant même les rapports humains dans les sociétés.
Ouais, voilà. Parce que je me souviens même que des gens applaudissaient, les soignants.
C'était beau.
Enfin bon, c'était le premier confinement. Après, ouais, ça s'est déjà arrêté. Moins, ouais. Et puis là, aujourd'hui, bon, bah, le président se rend compte que leur situation est merdique, mais il ne savait pas jusque-là.
Mais il fait une mission flash.
Mais là, il va faire une mission flash, quoi. C'est comme à l'auto-flash, mais c'est une mission, quoi.
N'importe
quoi. C'est hallucinant, pardon. Mais...
En fait, c'était beau et plein d'espoir. Hein. Et moi, je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas et qui disaient, de toute façon, on ne va rien changer. Et c'est quasiment sûr. Oui.
Et souvent, quand on disait ça aux gens, on disait « Oh, mais t'es un pessimiste, t'as pas confiance en l'humain. » Non, mais c'est pas une histoire de confiance, c'est juste une histoire d'habitude, un petit peu, de se dire bah, « Entre les discours et le réel, il y a des pans entiers. »
S'il y a eu quelques petits changements, notamment, et je vais le dire, pardon, mais ça va choquer, chez les plus diplômés qui peuvent se permettre de démissionner pour aller changer de métier, c'est pas trop le cas des gens qui remuent la merde toute la journée, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis que les gens remuent la merde, c'est juste qu'il y a des gens qui ont pas le choix, qui font des métiers de merde et qui ont pas le choix, et qui eux peuvent pas démissionner pour se poser la question de savoir si, oui ou non, leur travail leur apporte quelque chose.
Tu veux dire qu'ils peuvent pas se retirer en Ardèche ou en Lozère pour faire du pain à l'ancienne en pétrissant à la main, c'est ça que tu veux dire?
Tu veux dire que tous ces reportages avec des gens qui avaient bac plus 22
ils ont décidé de changer de vie. Ah bah tu m'étonnes, t'as vu les bagages qu'ils ont et le pognon qu'ils ont accumulé. Bah tu m'étonnes qu'ils peuvent changer de vie.
Alors je vais aussi, pardon, irriter un petit peu les gens parce que j'avais envie, je l'ai pas noté mais je viens de l'avoir en tête. Je rappelle juste comme ça qu'un cadre supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus que bac plus 5 dans l'industrie ou dans les hauts corps d'État va cumuler en 10 ans ce qu'une personne au SMIC mettra 73 ans à cumuler. Voilà, histoire que vous vous rendiez compte des écarts. Hein. Voilà, merci, on passe à la suite.
Et pourtant, on est tous des exploités.
Oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire que c'est quand même se rappeler qu'on ne part pas toujours de la
même chose.
Donc, on va prendre quand même l'exemple de COVAX. Alors, ouais. COVAX, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même l'un des exemples les plus terribles et sans doute les plus marquants d'un échec flagrant de ce que peut être l'entraide pendant le Covid, et donc c'est le fameux COVAX. Alors pour mémoire, COVAX, c'est une mutualisation de moyens pour permettre aux pays les plus pauvres d'avoir accès rapidement au vaccin et de permettre une immunité collective par la vaccination rapide au niveau mondial. Ça, c'est la définition de COVAX. D'accord ?
C'est beau.
C'est beau. Ah, on va pas dire que c'est pas beau.
Mutualisation.
Ouais, c'est joli. C'est, voilà. Alors COVAX, c'est donc censé être financé et alimenté par les pays riches, hein, d'accord ? Par les philanthropes, hein, tous ceux qui ont des sous à mettre, et par les dons des particuliers. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de COVAX. Les 60 pays les plus pauvres identifiés au départ sont passés au nombre de 98 assez rapidement, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le système de santé ne s'était pas effondré que dans 60 pays, il s'est effondré bien plus largement, ou qu'il était tout simplement inexistant, hein, ça existe aussi. Donc les besoins étaient donc d'avoir, à terme, 1,8 milliard de doses de vaccins, minimum, c'est-à-dire renouvelable, parce que je vous rappelle qu'il faut des rappels, mais il fallait donc 1,8 milliard de doses de vaccins, et d'aider à fournir les équipes médicales de transport nécessaires pour ces 1,8 milliard d'injections. D'accord ? Ouais. Ça, c'est ce qu'il y avait sur la table. Bon, coût estimé, global, environ 7 à 8 milliards de dollars. Ce qui n'est pas énorme, hein, on va être très clair.
C'est peanuts, hein,
c'est peanuts à l'échelle mondiale. Hein, donc voilà. Donc on dit, on ne parle pas non plus là de quelque chose d'hallucinant. Bon. Au final, aujourd'hui, quand je vous parle maintenant, hein, c'est-à-dire presque 2 ans après le début de COVAX, on a à peine réussi à fournir 850 millions de doses de vaccins. Et pour ce qui est des équipes, bah en fait, c'est plutôt les ONG qui ont pris le relais. Hein, parce qu'en fait, quand les ONG ont vu que rien ne bougeait et que personne n'arrivait, bah à un moment donné, elles se sont dit bah, « on va quand même le faire hein, parce que voilà, faut bien quand même des gens pour aller piquer ». Donc c'est notamment Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et d'autres organismes de ce genre-là. Donc on est loin et très loin du monde d'après, de la solidarité internationale annoncée. Et n'oublions pas que si COVAX a été créé, en grande partie sur proposition d'un pays qui est le grand pays des droits de l'homme, qui est le grand pays où tout va bien, la France. Ah. Hein, voilà, pardon, c'est de l'ironie.
Ironique ? Moi, je croyais que c'était oui. Tellement vrai.
Donc c'était avant tout, hein, en réalité, le fait qu'on ait proposé COVAX, c'était avant tout pour faire la protection des brevets. Et oui, parce qu'en fait, l'idée qui était derrière, c'est de protéger les brevets des vaccins et de ne pas pousser à les rendre libres, de ne pas faire chuter les brevets. Bah oui, parce que si on fournit des vaccins, on n'a pas besoin de les rendre libres, les brevets.
Bah oui, parce qu'on les achète.
Et voilà. Mais ça, c'est un certain Emmanuel Macron.
C'est quand même formidable si on reprend bien. On a parlé de mutualisation,
oui, c'est
gratuité. Pour au final, derrière, protéger le capital.
Ah bah oui, non, mais il y avait une idée derrière.
Ah ouais, non, c'est beau.
Et en plus du manque de financement et du fait qu'une fois la tension passée, on est passé à autre chose, hein, quand même, il faut quand même dire que les États riches n'ont du coup pas tenu du tout leurs promesses, hein, alors pas du tout. Et c'est aussi en fait de la géopolitique qui est venue se mettre au milieu de tout ça. Alors on va rappeler que la Chine, ne voulant pas des vaccins ARN messagers, soit américano-allemands, soit américains, a développé de son côté en 2-4-6 un vaccin qui s'avère totalement inefficace parce qu'il a été développé beaucoup trop vite, mais en prime, il n'a pas d'effet sur la reprise de l'épidémie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un variant, il ne marche plus du tout. Voilà. Et d'ailleurs, bah, on a pu voir ces derniers temps, hein, en ce moment, que pour cacher cette vérité, le régime militaro-communiste chinois a mis en place une politique zéro Covid, plus proche de l'enfermement carcéral généralisé de la population que de la gestion réelle du problème. Hein, parce que vous prenez une ville, que vous la fermez et que vous posez des sacs devant les trucs pour que les gens mangent, ça s'appelle une prison. Hein. Enfin, voilà.
Moi, je vous invite vraiment, amis auditeurs, auditrices, si vous n'avez pas vu ces images, enfin, il y a des gens, ils sont... Enfin,
Shanghai, notamment, c'est
Shanghai, genre, il y a des portes, elles sont soudées, quoi, pour que les gens ne sortent plus.
Ou alors, enfermer des gens.
Ou ils vont carrément chercher des gens pour les enfermer. Enfin, c'est...
Ah non, mais c'est un régime...
C'est vraiment au niveau autoritaire.
C'est une dictature qui applique vraiment quelque chose d'extrêmement violent et dont le plus grand, tout le monde s'en fout. Hein,
ouais, et puis là, on est vraiment aussi pareil dans de l'idéologie. Enfin, j'avais vu quelques émissions, etc., avec des spécialistes, on va dire, de la Chine et tout. Et ils disaient, en fait, là, on est dans l'idéologie.
Ah oui, mais c'est pour cacher qu'il s'était planté, en fait.
Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la Chine ne veut pas reconnaître qu'en fait, bon, bah, son vaccin n'est pas super. Parce que
c'est pas qu'il n'est pas super, il n'est pas efficace du tout.
C'est juste, je sais pas, ils croient sûrement qu'on les mettrait au milieu de la place du village et qu'on se moquerait d'eux, mais en fait, faut rassurer Winnie l'ourson, ça n'arrivera pas, c'est pas grave.
Son nom n'est pas Winnie.
Oui, c'est Xi Jinping. Pardon.
Voilà. Va pas insulter Winnie l'ourson, s'il te plaît. Donc, de la même façon, la Russie a joué le même jeu hein, en mettant en danger sa population par une vaccination aussi inefficace. Alors, là aussi, en créant un vaccin, vous savez, c'est le fameux Sputnik 5, puis 6, puis 7. Je crois qu'ils en sont à 8 ou 9, là, mais en fait, à chaque fois, ça fonctionne pas. Pour une raison simple, en fait, c'est qu'ils sont mal partis au départ et que beaucoup de scientifiques disaient, mais en fait, là, ce qu'ils ont fait au départ, ça peut pas marcher parce que ça visait pas la fameuse spike, vous savez. Donc, et sur les virus, si vous visez pas la spike, vous visez pas grand chose. Donc voilà. Et en fait, ça ne marche pas. Et son vaccin, il l'a utilisé, Vladimir, hein, Poutine. En fait, comment dire? Bah, comme un outil de pression internationale. Allez, on va le dire comme ça parce que c'est vraiment ce qu'il a fait en ayant des relais. Hein. Je vous rappelle, on en a eu en France, notamment des relais poutiniens. Il y en a eu en Amérique du Sud, il y en a eu sur le continent africain. Deux gens, en fait, qui disaient que le vaccin russe marchait beaucoup mieux que le vaccin occidental et qu'il fallait surtout pas prendre le vaccin des occidentaux. Voilà. En réalité, il marchait pas. Voilà. Oui, et oui. Tous les pays qui ont appliqué Sputnik sont aujourd'hui des pays qui sont confrontés à des nouvelles vagues parce que se pensant protégés, ils ont levé les mesures et sauf que, entre temps, est arrivé Delta et Omicron qui a fait des ravages. Voilà.
Et là, ça démontre encore une fois, hein, effectivement, on peut pas nier le fait que l'Europe, les États-Unis fassent de la géopolitique.
Ah non, c'était ma phrase d'après.
Oui, justement. Ah pardon, mais en fait, il faut aussi se rendre compte que
c'est de la géopolitique
tout
le
monde en fait.
Parce que très clairement, on va pas nier que les pays riches ont aussi une position à jouer et qu'ils la jouent. Ouais. Non mais très clairement, c'est ce que tu disais. Et je suis pas en train de dire serait le camp du bien, il y a le camp du mal. Non, c'est juste qu'il faut regarder objectivement ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, objectivement, ce qui fonctionne, c'est les trois vaccins ARN messager et le vaccin modifié, en fait, qui existe, qui n'est pas ARN.
C'est un booster, là
Non, c'est un vrai vaccin, okay. Mais je ne me rappelle plus du nom, donc pardon. Ces quatre-là fonctionnent, donc on le sait. Donc une fois qu'on sait ce qui fonctionne, il y a un moment donné, ben, on le met à la disposition du monde entier. On se fout qu'ils viennent de Cuba, de Chine, de Russie ou de vous voulez. À partir du moment où ça fonctionne, il faut le mettre à la disposition du monde entier. Et là, aujourd'hui, par des outils de géopolitique, par de la pression, par un refus, par ceci, en fait, on a des gens qui crèvent, parce qu'on va dire très clairement les choses, simplement pour que des dirigeants ne se sentent pas trop heurtés, pour que des régimes autoritaires perdurent, pour que des régimes capitalistes puissent continuer à briller, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, cette géopolitique de la mort, c'est la même, et c'est toujours la même, et ça rejoint ce que tu disais juste avant sur la spéculation, sur la bouffe, sur tout ça. Voilà. Mais aussi eu le fait que sur place, hein, c'est-à-dire dans les pays qui ont eu accès à Covax, en fait, il y a eu aussi eu de l'influence qui est venue se faire parce qu'il y avait une défiance très très forte envers les pays riches. Alors attention, hein, elle se justifie cette défiance. Je suis pas en train de voilà. Quand vous êtes dans des pays où on exploite l'uranium en mettant une armée autour des mines pour voilà, généralement, c'est normal que vous détestiez les gens qui. Quand vous êtes dans des pays qui ont été colonisés par des pays riches et que cette colonisation a laissé des traces et qu'en plus elle vous empêche d'avoir un développement correct, c'est normal qu'il y ait une rancœur qui existe. C'est pas du tout mon propos. Mais des potentats locaux sur place se sont servis de cette colère pour se renforcer politiquement en soufflant sur les braises parce que souvent ils étaient un petit peu borderline, c'est-à-dire que on sentait que les populations avaient envie de les foutre dehors et cette arrivée du Covid a été un petit peu trop bien. Alors ça a été le cas aux Philippines, ça a été le cas dans plusieurs pays africains, ça a été le cas en Amérique du Sud, hein, on se souvient des sorties de Maduro notamment, et en fait en réalité c'était parce qu'ils avaient besoin de redorer leur blason. Et quoi de mieux que d'avoir un ennemi extérieur et intérieur qui apparaît pour dire attention, oh là là, c'est pas bien. Et ça allait d'ailleurs jusqu'à nier au passage que le Covid existait, voire colportant même des choses fausses sur le vaccin, comme quoi ça allait vous donner des bronchies ou vous faire pousser des ailes. Bref, on peut le voir, hein, l'épidémie est loin d'avoir permis un renouveau de l'entraide internationale au niveau de la santé. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, ça aurait dû être. Et ça aurait dû insuffler quelque chose. Sauf que, une épidémie, une guerre, c'est un peu toujours pareil. Après vient l'oubli. Parce que c'est comme ça, l'être humain, il est un peu comme ça, il n'aime pas se rappeler. Et c'est normal. En fait, l'illusion est souvent la même, hein, quand une catastrophe arrive, à partir du moment où il y a une catastrophe, elle devrait tout changer ou modifier notre façon de voir les choses. Sauf que, c'est en rien magique, en fait, hein. Voilà. Que ce soit une épidémie, une guerre ou toute autre chose, sur le coup, l'entraide peut s'exprimer et c'est très bien. C'est ce qui fait l'humanité d'ailleurs, hein, l'entraide. Hein. C'est un des traits de l'humanité, oui. C'est qu'on ne laisse pas mourir nos semblables. Hein. Il faut être fanatisé pour faire des guerres, c'est toujours le même principe. Mais quand il y a quelque chose, vous ne laissez pas mourir vos semblables. Mais en fait, ça ne dure jamais vraiment, parce que c'est lié au moment, à la catastrophe, au c'est moment. Ça. Si on compte sur les coups du sort pour changer les choses, bah, en fait, on peut attendre longtemps. Il ne faut pas, il faut pour changer profondément la société s'appuyer sur une vision politique et en fait une militance politique pour changer profondément les choses. Politique au sens large, hein, pas politique au sens politicien.
Oui, et sens noble, on a envie de dire.
Oui, au sens noble, c'est-à-dire la gestion de vos vies et de la cité.
C'est ça.
On peut en effet s'appuyer sur les catastrophes hein, pour initier un tournant. On peut faire ça, mais s'il n'est pas pensé un peu en amont, on n'arrive à rien. Ou alors à très 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 peu et très 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 lentement. Voilà. Alors le Covid est maintenant, parce que c'est ça moi qui m'intéresse. Le problème du Covid, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les pays riches entrent dans une phase d'acceptabilité de la maladie, hein, vu que chez nous, bah, y a les vaccins qui fonctionnent. Ils risquent de laisser les pays riches pourrir la situation ailleurs dans le monde. Alors là, vous allez me dire, bon non, ça arrive jamais. Alors c'est déjà le cas hein, pour le sida, hein. Être très clair. Et là, oui, parce que chez nous, on a la PrEP et tout va bien. Il y a aujourd'hui encore des millions de gens qui meurent du sida chaque année. Hein, donc voilà. Et là, clairement, bah, c'est bien la réaction politique, au sens premier, hein, encore une fois, du terme, pas au sens petit papier et pas au sens réactionnaire, d'avoir une réaction, de réagir. Et donc, je disais pas au sens petit papier dans l'urne, hein, si ça suffisait, ça serait. Et ni d'aller choisir un maître. En fait, qu'il faut qu'on ait, nous, et c'est celle-là qui peut faire vraiment la différence, en réalité. Mais ne nous mentons pas, parce que j'ai pas envie qu'on se mente là au micro de la causerie ce soir. Les milieux de gauche et anards sont souvent bien trop infiltrés par une pensée antimatérialiste pour qu'ils pèsent vraiment sur l'avenir en termes de santé mondiale. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a rien de plus matérialiste que la santé. En fait, ça peut paraître étrange, mais la santé, au sens vraiment le soin donné par quelque chose qui fonctionne, c'est ultra matérialiste. C'est-à-dire, on essaye, ça marche, si ça marche pas, on fait pas. Voilà. S'ils ne se reprennent pas, hein, ces milieux, très clairement, ils risquent de rester des idiots utiles et les complices d'un capitalisme cynique, malthusianiste et eugéniste, qui lui, en fait, se contrefou qu'on croit qu'en mangeant de l'ail, on se soigne du sida, oui, par exemple. Voilà. Alors j'ai trouvé hein, l'émission qui a été diffusée le 31 mai sur Radio Canu, très intéressante. Je ne sais pas si elle peut se retrouver en ligne ou pas, mais en tout cas ce serait bien qu'un jour soit un
si radio, radio renversée.
Voilà, parce qu'elle a été très très bien. Donc elle y a interrogé la notion d'autodéfense sanitaire qui devrait être la réponse aussi bien locale que mondiale en fait au problème actuel, mais qui finalement est une réponse aussi bien pour le Covid que pour le sida, le paludisme et toutes les maladies. Et donc en fait c'est vraiment se réapproprier la capacité à soigner et à donner du soin. Lever des brevets, hein, ça, ce serait la base, à mes yeux, mais aussi donc organiser la fabrication, autogérer la fabrication, la distribution et l'éducation populaire, c'est tout ce que nous devons reprendre et exiger pour faire finalement avancer les choses. Et oui, ce ne sera pas simple, mais si justement nous devons apprendre quelque chose de l'épidémie de Covid, c'est que le monde d'après n'arrive pas seul et surtout pas sans peine.
Non, ça c'est sûr. Il faut foutre des coups de pied au cul, il faut s'en foutre et des coups de pied au cul, hein. Pas s'en foutre, s'en ficher. Non. Mais oui, oui. Enfin, je te rejoins à fond. C'est, j'en parlais la dernière fois avec des animateurs, animatrices de la radio, que justement on a beaucoup perdu, je pense, et on l'a souvent dit aussi dans cette émission. C'est le matérialisme, la science, etc. Et vraiment, enfin, je pense souvent cet exemple-là, mais une des premières causeries qu'on avait fait avec Georges sur l'astronomie, le premier commentaire qu'on a eu, c'était la causerie, la prochaine émission, une émission où on enculera les mouches.
Sur la Lune.
Sur la Lune.
C'était pas mal. Hein,
c'est ça. Et donc,
belle prouesse.
Oui, et j'en profite pour dire, parce que c'est moi qui ai fait la diffusion de l'émission dont tu parles, là, que j'ai beaucoup apprécié aussi, bah, ça m'a valu la visite d'un auditeur qui est venu nous dénoncer en disant « vous diffusez de la merde », etc. Donc ça démontre bien que nos milieux, autant militants que radiophoniques, que auditeurs, auditrices, ben on a un paquet de gens qui finalement sont pas très au clair, je trouve, sur ce que c'est la science, sur ce que c'est la médecine, etc. Alors évidemment qu'il faut critiquer le capitalisme, et le capitalisme il est tout le temps en fait. Alors oui, bah la santé aussi, bah oui, bravo, oui. Le capitalisme il s'empare absolument de tout. Donc c'est un vrai problème. Moi je trouve ça absolument flippant d'avoir de réactions aussi hallucinante dans nos milieux. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça assez flippant, quoi.
Je suis d'accord.
Parce que ça veut dire que le matérialisme est très loin de nous, quoi. Et ça veut dire que quand il s'éloigne beaucoup, on va en chier beaucoup pour qu'il revienne dans nos, dans notre giron. Alors que je pense fondamentalement que politiquement,
historiquement, c'est quand même.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est que en fait, ça vient.
La création, création de la sécurité sociale, c'est venu comme ça. C'est-à-dire l'idée que le soin est quelque chose qui doit se partager et sans coût. Voilà. Et c'est déjà une des premières bases. C'est et ben voilà, si on abandonne même cette base-là, on est dans la merde.
C'est un peu ça. Voilà. Bon, bref, passe à la musique peut-être.
Ben oui.
De nous, pour avoir mis nos cœurs en fusion, pour avoir fait de notre amour la plus impossible raison, pour t'avoir mis si loin de moi, et en même temps au plus profond, pour avoir fait de toi mon autre, mais l'ennemi de toutes nos passions, pour faire crier ce violon, sans celle qui vivra dans mon ombre, pour t'avoir donné cet autre qui a ce droit de toucher ta peau. Je te hais autant que mon amour pour toi me tue. Je hais ce monde autant que cette vérité est née.
Causerie au 102.2 sur RadioCanu.org. On vient de s'écouter l'immense Pandore. Oui, j'adore Pandore, donc je vais pas faire comme si je l'aimais pas. Voilà. Et c'est un nouveau titre qui s'appelle Phoenix. Et moi, Pandore, quand il chante Les Amours Impossibles, ben, je trouve ça juste magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Et je vous invite à suivre Pandore parce qu'en fait, c'est des... il demande du soutien via un truc Tipeee ou un truc comme ça. Et en fait, tous les mois, il essaie de sortir un titre avec le soutien des gens qui lui ont filé un peu de thunes pour avoir l'argent pour masteriser, etc. etc. Donc, si vous aimez sa plume et sa voix, n'hésitez pas à le soutenir.
Ouais.
On alors passe au bref.
Ouais, alors on va commencer mercredi 8 juin. Il y a le procès en appel pour le squat, les clameurs. Pas les clameurs du tout, les chemineurs. Voilà, excusez-moi, j'ai un nom de bar qui est venu dans ma tête. Alors que c'est les chemineurs, là où vous savez que des mineurs sont
mineurs isolés.
On les avait reçus dans la causerie. Donc je crois que c'est le quatrième ou cinquième appel. Enfin bref, ils veulent à tout prix les expulser. Ils veulent que lors de cet appel, l'expulsion immédiate soit prononcée. Hein. C'est la société qui détient le lieu où ils se trouvent. Et donc en fait, eh ben, il faut aller les soutenir. Donc c'est à partir de 8h30, 9h. C'est mercredi 8 juin. Et c'est donc devant le tribunal du Vieux-Lyon, les fameuses 24 colonnes. Voilà, et c'est à cour d'appel. Donc ils sont là-bas. Allez-y et allez les soutenir. Ça peut que leur faire du bien. Je suis désolé, à titre personnel, je ne pourrais pas y être, mais en tout cas, si vous pouvez y être, ça peut être cool et c'est bien d'être beaucoup. Moi, je sais que quand on passe au tribunal, de ne pas se sentir tout seul, ça fait du bien. Voilà.
C'est sûr. On passe à jeudi 9 juin. C'est à 19h30. Ça se passera à l'annexe de l'ECG. C'est dans le 7e arrondissement. En fait, c'est dans un cycle écran critique. En fait, une association qui s'appelle Tilancia, en fait, qui est autour de la vidéo, etc. En fait, invite donc à la projection de En découdre, parole ouvrière en rouennais. Pardon. En fait, c'est sur. J'essaie de vous faire le topo vite fait. C'est après la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'industrie textile emploie des milliers d'ouvrières sur le territoire rouennais. Elles produisent des vêtements de luxe dont la qualité est reconnue dans la France entière. À travers une série d'entretiens, ce film retrace l'histoire de ces femmes rentrant souvent jeunes à l'usine, où elles vont découvrir évidemment des conditions de travail difficiles, le paternalisme patronal, mais également la solidarité ouvrière. Et en fait, bah, tout ça, enfin voilà, le film c'est fait d'entretiens, et donc c'est aussi garder, construire et perpétuer, on va dire, cette mémoire aussi ouvrière, parce que comme le disait je ne sais plus qui, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera. Donc ça se passe jeudi 9 à 19h30 à l'annexe de l'ECG, 27 rue Salomon dans le 7e arrondissement. Salomon Reinhardt, pardon.
Ouais, j'allais dire, il manque un mot. sinon, donc, bah, après, pour continuer un petit peu dans la même veine de se questionner, de s'interroger, donc là, ça va se passer vendredi 10 juin à 19h au Café Rosa. C'est la présentation, discussion autour du roman de science-fiction Subtil Béton, avec quelques agglomérés et ES. Voilà, donc je vous laisserai regarder qui sont ces gens, et c'est très intéressant. Donc vendredi 10 juin à 19h, quelques membres du collectif d'autrices des agglomérés.es, voilà, sont au Café Rosa pour présenter le bouquin, échanger sur les thématiques que le roman explore et l'aventure qui a représenté sa fabrication. Vous aurez compris que c'est un roman collectif. Voilà. Et donc c'est au Café Rosa, c'est à partir de 19h, et le Café Rosa, je vous donne l'adresse tout de suite dès que je la retrouve, c'est au 78 bis rue Béchevelin, pardon, dans le 7e. Voilà.
Ok, et ben on reste à vendredi 10, hein, si la science-fiction vous branche moyen. Il y a la librairie La Griffe qui propose à 19h en fait une rencontre et discussion avec Kamel Daoudi, qui est assigné à résidence depuis 14 ans, ce qui en fait le plus, enfin la personne qui a été, enfin qui est la, qui subit le plus, oh là je perds mes mots,
la plus longue répression,
la plus longue répression, le plus grand enfermement, en tout cas c'est un enfermement à la maison, mais ça reste un enfermement.
Et c'est un enfermement sans jugement.
C'est ça. Voilà. Donc voilà, donc ça se passe vendredi 10 juin à 19h à la librairie La Griffe, qui est toujours au 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement. Et je précise, en fait, cette rencontre et ces discussions auront évidemment lieu en visioconférence, hein, du fait justement de l'assignation à résidence de l'invité. Voilà.
Sinon, eh ben, c'est le mois des fiertés, hein, donc c'est-à-dire que c'est le mois des fiertés LGBTQI+, et tous ceux qui ont envie d'être pas oubliés, parce que je n'ai pas le moyen de mettre toutes les lettres, voilà. Mais en tout cas, c'est très important ce mois des fiertés, et donc sur Lyon, du 4 au 18 juin déjà se tient la quinzaine des fiertés, donc c'est plein d'événements, je vais pas les lister, hein, voilà. Mais allez chercher sur notamment le site du CFL, que Collectif Fierté en Lutte, que vous pouvez réentendre d'ailleurs dans l'émission Interlope qui a eu lieu sur Radio Canu, et sinon vous allez voir tout ce qui s'y passe. Et sinon, bah, le 11, C'est ça? Je dis une bêtise? Si, c'est ça.
Non, c'est
le,
ça.
Le samedi 11, et je ne retrouve pas le départ. Ça y est, je l'ai retrouvé.
C'est la Villeurbanne.
C'est, ouais, ouais. Et c'est donc la fameuse Pride, la marche, et donc c'est un départ à Villeurbanne. Ouais, alors ça change. Mais donc c'est départ Esplanade de Geneviève Antonios de Gaulle, avec à 12h prise de parole et 14h départ de la marche. Voilà, et donc Esplanade Geneviève Antonios de Gaulle, je crois que c'est à côté du métro A, il me semble, de mémoire. Voilà.
Je ne sais pas.
Mais je sais même, moi qui suis urbanais, je ne sais même pas où c'est.
Non, non plus.
Voilà.
Mais on peut remercier le CFL de rendre très invisible une marche des fiertés du centre-ville de Lyon, évidemment, et de servir la soupe à la mairie villeurbanaise. C'est mon point de vue.
Oui,
et je tenais à le préciser, voilà, parce que je trouve ça absolument hallucinant. Enfin bref. Pardon, je passe toujours le 11 juin. Et cette fois-ci, c'est à partir de 18h, c'est à prix libre. Et en fait, c'est l'Observatoire international des prisons qui vous invite à assister à Craquage carcéral. En fait, c'est un concert qui a lieu en soutien de l'association, donc de l'Observatoire international des prisons. Et en fait, je vais pas vous donner toute la prog, hein, mais il y a du punk, du rap, un DJ set à la fin, etc. Donc c'est ouverture des portes à 18h, entrée à prix libre. Et... je tiens à le préciser aussi, il y a des référents et des référentes. Alors VSS, je ne saurais pas exactement ce que c'est, mais c'est en cas de problème dans la soirée. J'ai envie de le dire, et c'est pas pour stigmatiser cette soirée, parce que c'est un truc qui arrive toutes les soirées en ce moment, c'est faites attention. Il y a de plus en plus de cas qui reviennent de gens qui se font piquer dans les soirées, mais piquer avec une aiguille, quoi. Une seringue, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les produits.
Priori, c'est du GHB.
Ça ressemble à du GHB, etc. Donc, enfin, même si vous y allez seul, repérez des gens avec qui vous pouvez aller voir, etc. Et là, je trouve ça vachement bien que cette soirée mette en place des référents et des référentes. Et si vous êtes en groupe, ne vous perdez pas de vue. Voilà, sachez toujours où sont les gens avec qui vous êtes venus, parce qu'il y a vraiment un sale truc qui se passe en ce moment dans les soirées, dans plein de soirées très différentes. Donc j'en reviens à cette soirée de soutien à l'Observatoire international des prisons. Donc samedi 11 juin, au Toy Toy, à partir de 18h. Et jusqu'au bout de la nuit.
C'est où le Toy Toy Lezing?
Mais le Toy Toy Lezing, c'est 17 et 19 rue Marcel Dutartre à Villeurbanne.
Voilà.
Voilà, tout est dit.
Et oui. Et la semaine prochaine, eh ben, on est désolé,
ah oui,
mais on n'est pas là.
Voilà, c'est vrai.
Autant vous le dire. On ne sera pas là, on reviendra dans 15 jours avec une émission qu'on espère qui vous plaira. Et en tout cas, bah oui, pas de nous la semaine prochaine.
Rendez-vous le 19 donc.
Vous pouvez nous réécouter sur le blog. Y a
oui,
pas de
si
problème,
on vous manque tellement, si n'hésitez pas.
Voilà.
Eh bien, on va se quitter alors. Clara, elle annonce le titre.
Oui, je vais faire ça. On se quitte avec les Marx Sisters et le titre Chiribim. Et je dois aussi préciser que c'est le dernier album qui s'appelle A Room Dem Fire.
C'est leur nouvel album, voilà. Et elle chante en yiddish et c'est vachement bien. Voilà.
Et ben voilà, nous on vous donne donc rendez-vous le 19 juin. On vous souhaite bon courage d'ici là. Et puis ben, restez à l'écoute de Radio Canu, des bandes continues et de certaines émissions qui seront encore là pendant un petit temps. On vous fait des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Ciao.
Nasser.